Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut justifier notre présence ici. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut justifier les exaucements de prière. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut justifier les guérisons, les baptêmes de l'Esprit. C'est que la grâce de Dieu. Parce que vous allez voir, la vie de David maintenant ne va plus être très géniale. Et curieusement, la Bible, le Nouveau Testament même, garde un souvenir de David qui est positif. Et franchement, moi, après avoir préparé un petit peu la suite de la vie de David, j'ai du mal à avoir un souvenir positif. C'est difficile. Et je pense que Dieu va nous parler au travers de ça. Si on regarde que les bêtises qu'il a faites, waouh, on a envie d'arracher les pages. Se dire, oulala, on ne parle plus de lui. Hein. Oulala, le vilain. Eh oui, mais la vie humaine, c'est ça. Elle est faite de bonnes choses et de mauvaises choses. Et si on vit, si on peut louer Dieu ce matin, si on peut prêcher, si on peut jeûner, prier, c'est uniquement parce qu'il est un Dieu de grâce. Alors, je voulais dire ça parce que, franchement, moi, ça me perturbe en ce moment. Et j'appréhende cette période où je vais devoir exposer un peu le mauvais côté du roi David. Mais la Bible est réaliste. Elle ne raconte pas de bêtises, elle ne nous dort pas sur tranche. Elle nous apprend aussi à accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on est humain, qu'on est très limité, très très limité dans notre humanité. Alors, on va reprendre le passage de 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 3. Alors, je résume rapidement pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi. On est dans une période de repos. Ça veut dire, dans la Bible, il n'y a pas de guerre. Sympa. David est enfin roi de tout Israël. Il est dans son palais, dans sa capitale, Jérusalem. Donc, tout va bien. Mais il souffre. Il souffre de quoi ? Il souffre de voir le coffre de l'Alliance, dans lequel il y a l'étape de la loi, etc., sous une tente, alors que lui vit dans un palais. Évidemment, c'est gênant. Et puis, il en parle à Nathan. Et ben Nathan, il lui dit, regarde, c'est pas normal, quoi. Hein, regarde un petit peu. Moi, je suis dans un palais et il y a la tente, là, qui... C'est pas normal, l'Arche de l'Alliance dans une tente. Et le roi dit à Nathan, le prophète, regarde, je te prie, j'habite dans une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » Ah. À cette époque, dans tous les pays païens autour, c'est la responsabilité du roi de construire le lieu de résidence du dieu local, du dieu du pays. Et Nathan, en tant que prophète, il a des yeux pour voir. Il est peut-être à la terrasse du château, il voit le palais et il voit la tente, peut-être par la terrasse ou la fenêtre du palais. Il voit. Il sait aussi que c'est normalement ce qui doit se faire. Et il sent l'envie d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. L'envie qu'a David d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi roi, en fin de compte, malgré toutes les oppositions, et Dieu sait que il a battu les records, je pense, au niveau de l'opposition, puisqu'il a tout le temps, Saül cherchait tout le temps à le tuer. Donc, c'est la première fois qu'on voit Nathan, le prophète, dans la vie de David. On a dit qu'il ressemblait beaucoup à Samuel, que c'est un prophète indépendant de la cour, et du pouvoir, même du pouvoir cultuel, et quelqu'un qui n'est pas influencé par l'entourage du roi. C'est important pour la suite de notre histoire. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Nathan ? C'est ce que j'ai un petit peu essayé de résumer par rapport à la dernière fois. D'abord, c'est la vue. S'il se fie à ce qu'il voit, palais, tente, c'est une bonne décision de faire quelque chose pour abriter l'Arche de l'Alliance. S'il se fie à son ressenti, il sent la reconnaissance et l'amour de David pour Dieu. C'est ce qu'il le ressent. Hein. Ça devait bien se ressentir dans le chagrin qu'il a de voir l'Arche dans une tente. Troisièmement, il y a la mémoire aussi. Il sait que Dieu a marché avec David et l'a sauvé de toutes sortes de dangers. Et s'il est là, c'est purement miraculeux. La mémoire, la vue, le ressenti, la mémoire. Et puis aussi la logique. C'est quand même évident que la tente, elle était faite pour être démontée. Pourquoi démontée ? Parce qu'elle devait suivre le peuple dans ses déplacements. est remontée au fil des installations pendant toute la période où ils ont été dans le désert, jusqu'au pays promis, etc. Maintenant, le pays était installé dans le pays promis. Le peuple était installé dans le pays promis. Ils font donc passer à un lieu fixe, puisqu'ils sont installés. Vous voyez, il y a une logique. Un truc démontable, c'est bien quand on voyage. Un truc fixe, c'est bien quand on est installé. Et donc, à cause de la vue, du ressenti, de la mémoire et de la logique, ben Nathan, il est humain et il dit « Fais ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » Et quelqu'un a dit « Un prophète peut se tromper s'il parle avant d'avoir entendu. » Pourtant, il y avait tous les éléments pour se dire « C'est la volonté de Dieu. » Et de même, on avait dit aussi la semaine dernière, c'est pas parce qu'une chose est bonne et conforme à la parole de Dieu qu'elle correspond à l'appel de Dieu pour moi. Chaque fois qu'on cherche la volonté de Dieu, pour moi c'est le plus gros problème, c'est choisir entre le bon et le meilleur. Entre le bon et le mauvais, quand on aime le Seigneur, qu'on connaît sa parole, c'est relativement facile. Ça c'est mauvais, c'est pas de Dieu, c'est condamné par la Bible, bon, c'est réglé. Mais entre le bon et le meilleur, là, c'est chaud. Comment je suis sûre que ce sera le meilleur? Et c'est là qu'on a besoin d'écouter Dieu. Et comme on a terminé, je crois, la semaine dernière, en disant, c'est pas facile d'écouter Dieu. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a tous ces éléments, la vue, le ressenti, la mémoire, la logique, qui viennent s'imposer. On est humain, quoi. Heureusement, Nathan va entendre Dieu cette nuit-là. Il reçoit la parole du Seigneur. Il avait parlé en homme simple qui a exprimé les pensées de son cœur. Mais là, il va parler de la part de Dieu. Et j'avais remarqué la semaine dernière, vous vous souvenez, que Dieu ne fait aucun reproche. Ça, j'ai bien aimé. Nous, humains, on fait des reproches. Voilà, ça, c'est clair. Les mamans particulièrement. Ah, si tu avais fait ça, etc. Non, non, bien sûr. Pas les papas, juste les mamans. Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. Vous voyez, pas de reproche. Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Ah oui, pas ainsi parle Nathan, mais ainsi parle le Seigneur. Et là, ça va être complètement différent. Il le renvoie vers David, c'est la meilleure solution. Il va corriger ce qu'il lui avait dit. Le Seigneur est avec toi. Pourtant, c'était vrai que le Seigneur était avec lui. Et donc, on va lire la suite. Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Alors j'ai longuement réfléchi à ce texte, parce que je voulais, qu'est-ce que Dieu avait derrière la tête en disant ça? Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Et pendant des années, en lisant ce texte, j'ai cru que ça voulait dire, c'est pas toi, ce sera ton fils. Ouais, peut-être, mais il y a autre chose, vous allez voir. Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacée avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacée, avec tous les Israélites, oui, il y a une insistance là, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël? Mon peuple, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur des armées. On va juste s'arrêter là parce que ça demande un peu d'explication. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il aurait pu lui dire tout de suite, tu sais, ce sera ton fils, t'inquiète pas, ça sera fait, mais non, est-ce toi? Je me suis dit, non, certainement Dieu voulait dire autre chose. Et ce matin, j'étais frappée par les choix des chants de la louange. Je ne connaissais pas. Oh Dieu, tu es grand. Et tout ce qui était axé sur Dieu, sur Jésus, sur sa grandeur, sa puissance. Eh bien, parce qu'il est là le problème. Quand Dieu s'adresse à David, il commence par lui poser une question. Ah, vous avez remarqué dans la Bible? Souvent, Dieu pose des questions. Jésus aussi. Et je voudrais juste, puisqu'on a parlé de la grandeur de Dieu, juste qu'on regarde un tout petit peu Job. Vous savez que j'aime bien la fin de Job, pas le début, mais la fin. Je pense que vous êtes comme moi, on préfère la fin que le début. Mais juste rapidement, à partir du chapitre 38, Comment est-ce que Dieu pose des questions à Job? Job qu'on a ras-le-bol des épreuves. On le comprend. La santé, la famille, enfin rien ne va plus. Les questions que Dieu lui pose. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures? Qui a tendu sur elle le cordeau? Etc. Et puis un peu plus loin, qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élança? Etc. Etc. Qui? Quand Dieu dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Et puis on peut continuer au chapitre 39. Connais-tu le temps où les bouquetins font leurs petits? Peux-tu compter les mois, etc. Connais-tu le temps où elles se courbent, donnent le jour à leur progéniture? Qui a mis l'onagre en liberté? Etc. Et puis on peut continuer comme ça. Le Seigneur reprit la parole et dit à Job, le donneur de leçons va-t-il chercher querelle au Tout-Puissant? Oh oh. Et Job répond, il a tout compris, après deux chapitres, je suis peu de choses, que te répliquerai-je? Et il continue, hein, Dieu. Chapitre 40, tiens-toi prêt, comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu? Bon, oh, voilà. Si vous relisez ces chapitres, vous voyez que Dieu pose toute une série de questions qui reviennent à dire, t'es qui toi? Et qui suis-je moi? Hein? J'ai cru comprendre ça. Hein? Et en fait, la première chose qu'il va faire, Dieu là, c'est faire réfléchir David à, j'allais dire cette bêtise, non, c'est pas une bêtise, mais cette façon de voir, je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Je vais bâtir pour toi. C'est moi qui vais faire pour toi. C'est pas seulement ce sera ton fils, ce sera pas toi. C'est surtout ce qui préoccupe Dieu, c'est dire rappelle-toi David qui je suis. Et franchement, on en a besoin. À notre époque, avec notre Dieu de poche, il y en a marre, franchement. On limite Dieu. Mais moi, la première. Mais Seigneur, ce problème est trop grand pour toi, tu n'arriveras jamais à le résoudre. Enfin, ça revient à ça souvent, hein. Seigneur, c'est pas possible. On limite Dieu. Et David, quelque part, il mettait Dieu dans une boîte, une jolie boîte. Mais il le limitait. Je vais, moi, le roi qui est dans un palais, qui maintenant vit en paix avec ce magnifique pays, je vais te bâtir une maison. Je vais te cadrer. Et je comprends pourquoi Dieu disait à Job, toi, moi j'ai arrêté l'orgueil des flots. Est-ce que c'est toi qui peux faire ça? Mais oui, on ne se rend pas compte, mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et la louange ce matin, elle est bien dans ce sens. Qui est Dieu? Il nous dépasse, il est créateur. Et on a besoin régulièrement de prendre conscience de qui est Dieu. Parce que instinctivement, notre être humain, nos sentiments, nous réduisons Dieu à notre ami, notre sauveur qui est avec nous, etc., qui nous exauce. Mais franchement, on rétrécit ses capacités. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je le sens par moments. Oh, il n'y a plus que la prière, hein. Oh là là. Oui, je suis la première à le faire. Hein. Et puis, deuxième chose, qui est David devant Dieu? Est-ce toi? Mais qui es-tu, David, devant moi? Tu crois que tu vas me bâtir une maison? Tu vas pouvoir m'intégrer dans tes plans? Et non, c'est l'inverse. Et quelque part, le fait de bâtir une maison, je trouve que ça plaçait David un peu au-dessus de Dieu. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pensé à ce texte, je ne l'ai pas recherché, mais vous pourrez le retrouver, où Dieu dit « Je ne suis le débiteur de personne ». C'est important. Dieu est celui qui règne et on ne va pas le mettre dans une boîte. Et puis Dieu essaie aussi de faire passer David sur un autre plan que le plan humain, visuel, extérieur, social, rituel, religieux, sentimental, ressenti, hein, ou même logique. Et on a vu ça avec la Samaritaine. L'eau que je te donnerai, oh, elle n'a rien compris. Et nous, parfois, on est comme ça aussi. Dieu parle sur un autre plan, puis on ne comprend pas. Et puis le texte de Michée qui a été pris par Philippe Juston il y a 2 semaines, c'est pareil. Il illustre bien, mes voix sont au-dessus de tes voix. Et on a le même problème, le prophète qui parle et qui dit, avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? En fait, qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je vais faire pour lui? On a la même dynamique que David avec sa maison pour Dieu. Donnerais-je mon premier-né? Jusque-là, puisque c'est ce qui se faisait à l'époque aussi, hein, avec les dieux païens. Et Dieu se place sur un autre plan. Oh, ça suffit. Vous vous souvenez ce qu'a dit Philippe? Ça suffit. On n'est pas du tout dans ce domaine. Il t'a fait connaître ce qui est bon. C'est que tu agisses avec équité, tu aimes la fidélité, tu marches modestement avec ton Dieu. Bon, ça, c'est ma traduction, mais c'est sur un autre plan. On n'est pas dans le donnant-donnant avec Dieu. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait bien tout, j'ai suivi tous les rites, tous les... Alors, adore, quelque part, tu me dois quelque chose. Et c'est... Dieu se place sur un autre plan. Mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées, au-dessus de vos pensées. Alors, moi je comprends David, il est choqué que son Dieu, à qui il doit absolument tout, il le sait, habite dans une tente alors que lui est dans un palais. Et je pense que quelque part David est influencé comme nous par la société dans laquelle il vit. Parce que dans sa société, on chouchoute ses idoles, pour parler vulgairement. Hein, et puis on leur fait des beaux palais, on met des pierres précieuses, etc., etc., etc. Et les divinités païennes, elles sortent de l'imaginaire humain. Ce sont des dieux complètement à l'image de l'homme. D'ailleurs, ils sont loin d'être parfaits, hein, ils sont souvent méchants, ils font même de l'anthropophagie. Enfin bon, si vous regardez un peu les dieux de cette époque, c'est très édifiant, hein, franchement. Rien à voir avec le dieu d'Israël. Donc, le roi, il a un palais, la divinité doit avoir un palais. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon Dieu? Rappelez-vous la Samaritaine? Où faut-il l'adorer? Comment il faut faire les choses bien pour qu'il soit content? Où faut-il l'adorer? Il y a la notion de devoir pour plaire à Dieu. Et Dieu insiste en disant, mais est-ce que j'ai dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Et là, on touche quelque chose d'important. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Ça c'est toi, c'est ce que tu as envie de faire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? Et combien de fois dans notre vie, on a envie de faire des choses? On est tous pareils, hein? On a envie de faire des choses pour faire plaisir à Dieu. Et puis Dieu nous répond, est-ce que j'ai demandé ça? Je me souviens de... Là, on sort d'un temps de jeûne et prière qui a été adapté à la santé de chacun, mais je me souviens de quelqu'un qui régulièrement faisait 40 jours de jeûne et prière. Et c'était vraiment une façon aussi de dire, moi je fais ça pour le Seigneur. Et vraiment, souvent je me suis demandé, est-ce que vraiment Dieu lui demandait? Mais quelque part, il se présentait devant Dieu avec ses 40 jours de jeûne et prière, et il nous le faisait bien savoir. Ok, on ne va pas juger, mais la question juste qu'il faut se poser, est-ce que Dieu l'a demandé? Je crois que ces 3 jours, Dieu les avait demandés. Et on est dans cette dynamique avec Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est plus difficile d'obéir que de faire un sacrifice. On n'a qu'à voir les religions païennes, ils en font des sacrifices, hein? Ouh là là! Et ce que Dieu demande, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. Voyez, on est sur un autre plan avec Dieu, on est loin du donnant-donnant. On est sur un autre plan, en esprit, en vérité. Le cœur, le fond, les motivations, l'intention. On parle beaucoup aujourd'hui d'être intentionnel. Quelle est notre intention? Habiter dans une tente n'était pas le choix des hommes. Mais c'était celui de Dieu. Et ça, David l'avait un peu oublié et Dieu lui rappelle. Je n'ai jamais demandé la construction d'un palais. On ne fixe pas de limite à Dieu. Il avait donné les plans du tabernacle, donc de cette tente, à Moïse. Et ça avait une signification symbolique. Peut-être il faudra qu'on la revoie aussi, parce qu'on l'a fait en un temps avec Annie Stéphane, qui nous avait détaillé tous les symboles. Symboles de salut, de pardon, enfin dans toute la construction du tabernacle, et c'était des symboles que les gens à l'époque pouvaient comprendre. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement les théologiens d'aujourd'hui. Hein? Il avait demandé qu'il n'y ait pas de représentation, de peinture, de sculpture humaine ou animale, parce que Dieu est Dieu, il est tout autre. Et il ne faut jamais qu'on oublie ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas un homme pour nous décevoir, rien à voir avec nous. Sa gloire n'est pas matérielle, elle est d'un autre ordre. Parfois, on aimerait bien assimiler la gloire de Dieu à des paillettes ou à de la fumée, etc. C'est arrivé dans l'Ancien Testament, cette nuée, etc. Mais c'est bien plus que ça. Alors, pourquoi une tente? Eh bien, il le précise, c'était pour accompagner le peuple dans tous ses déplacements. Vous ne trouvez pas ça formidable? Le cœur de Dieu était d'accompagner. Pourtant, ce peuple, franchement, hein, bah, il n'était pas mieux que nous. Hein. Qu'est-ce qu'il pouvait râler ? Il avait vu des miracles extraordinaires que nous, on n'a pas vus. Hein. Il râlait quand même. Et pourtant, Dieu voulait rester proche, proche de son peuple. Il ne voulait pas être attaché à un lieu où il fallait l'adorer, mais il est attaché à ses enfants. Et ça, on l'oublie souvent. Quand ça ne va pas, on oublie que notre Dieu est attaché à nous. Même si nous, on s'est détaché de lui, il reste attaché à nous. Il a fait alliance. Regardez comment il a procédé dans l'Ancien Testament. Si on survole, il a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, Judas. Judas, la tribu de Judas, hein, David. Et puis, j'ai entendu un message cette semaine qui parlait de l'attachement. Et vous savez, la tribu de prêtres, c'était la tribu de Lévi, fils de Jacob. Et vous savez ce que ça veut dire, Lévi ? Attachement. C'est ceux qui servaient à l'attachement du peuple envers Dieu, qui manifestaient l'attachement de Dieu envers son peuple. Attachement. Dieu est un Dieu qui s'attache à nous. Il nous suit, il marche avec nous. Alors là, pour nous encourager, psaume 34, verset 19. Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. On aime bien lire ce verset. Psaume 85, verset 10. Son salut est près de tous ceux qui le craignent. Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Et puis bon, j'en ai pris trois, mais vous savez qu'il y en a beaucoup. Et le symbole de la tente, il est important. Il marche avec son peuple. Il se déplace avec eux. Toujours avec eux. D'ailleurs, on appelait la tente, le tabernacle dans lequel était l'arche, on appelait la tente d'assignation. Alors, j'aime pas ce mot-là, ça fait partie des mots religieux que personne ne comprend très bien. C'est la tente de la rencontre. On est assigné à venir. Voilà. Dieu avec nous. Dieu rappelle à David, donc, qui est Dieu et qui est David. Rappelez-vous, Dieu, la terre et son marchepied. Ah ! Regardez un petit peu les documentaires sur l'univers. La terre et son marchepied. Un petit tabouret sur lequel il peut poser son pied. Une bonne image. Dieu est grand, on l'a chanté. Et Job, après avoir eu toutes les questions de Dieu, il ne discute plus, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et il est temps qu'on rentre régulièrement dans cette dynamique. « Seigneur, je reconnais que tu peux tout. C'est toi qui tiens tout en main. » Quelles que soient mes fautes, tu me pardonnes. Quels que soient les besoins de grâce que j'ai dans ma vie, tu es là, tu m'accompagnes. Et après avoir remis un peu les choses en place, Dieu revient sur le passé. Alors c'est curieux parce qu'en fait, on était parti sur l'idée de construire un temple, une maison pour Dieu. Et il parle, qui je suis, qui tu es toi David. Deuxième chose, le passé de ma relation avec toi David. On ne parle toujours pas de la maison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Ainsi parle le Seigneur des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage. Ça commence bien. C'est moi. Derrière le troupeau, il insiste, parce que c'était les gens les plus pauvres qui faisaient ce travail. Pour que tu sois chef sur mon peuple, pas le tien, et sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi. Voyez ce Dieu d'alliance. Et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Il revient sur le passé. Puis après, il conclut, je te ferai un grand nom. Ce n'était pas le problème, ce n'était pas la question. On est bien d'accord, on parlait de la maison à construire pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il répond ? Rappelle-toi qui je suis, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Et puis, accessoirement, je te ferai un grand nom. Alors, nom, dynastie, maison, c'est à peu près le même mot, si j'ai bien compris, en hébreu. C'est moi qui t'ai pris. On parlait d'appel, et ben c'est ça l'appel. C'est moi qui suis allée te chercher. C'est moi qui t'ai appelé. T'as rien demandé, t'étais derrière tes moutons. Et franchement, combien de fois j'ai pensé, ce pauvre David, il était bien tranquille avec ses moutons. Même si de temps en temps, il y avait une bonne bagarre avec un ours ou un animal sauvage. Mais franchement, moi qui aime la nature et les animaux, qu'est-ce qu'il devait être bien avec ses moutons. Tranquille, personne pour l'embêter, sauf les animaux sauvages. Et puis les moutons, c'est mignon, ça a l'air un peu bête, mais bon, voilà, ça représente bien nous les humains, devant Dieu. Mais il était heureux. c'est moi qui suis allé te chercher. Rappelle-toi, David, tu es roi aujourd'hui, mais c'est moi qui suis allé te chercher. C'est moi qui t'ai appelé. Et j'aime bien la phrase, pour que tu sois le chef. Et ça, c'est le devenir, pour que tu sois. Je t'ai appelé pour que tu sois. Et c'est bon de se rappeler que c'est Dieu qui nous a pris là où nous étions. Du coup, moi, j'ai réfléchi un petit peu. Dieu m'a appelé quand j'étais enfant. J'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens, donc en tant qu'enfant. Mais pour beaucoup, il nous a appelés dans des situations tragiques, dans le péché, dans l'ignorance, ou même dans la pire des rébellions. Moi, je me souviens d'un frère de mon église qui était, à l'époque, les communistes étaient beaucoup plus violents qu'ils sont maintenant, et il avait tout le temps le poing levé contre Dieu, il faisait des manifs, etc. Et c'est là que Dieu est allé le chercher. Et après, il a été un serviteur de Dieu formidable. Il avait une grosse voix, c'était vraiment super pour un parti politique. Et Dieu est allé le chercher pour prêcher l'évangile. Où est-ce que Dieu va nous chercher? Dans l'indifférence, parfois. Dans l'athéisme. Je suis toujours émerveillée par le témoignage d'Arnaud Rivalin. Parents athées militants. Deux garçons qui servent le Seigneur. Dieu est allé les chercher dans l'athéisme familial. Fallait le faire. Je suis admirative de ce que Dieu fait. Et c'est important de se rappeler d'où l'on vient et ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'on l'oublie, hein, une fois que tout va bien, c'est comme les femmes qui accouchent. Hein. Oh là là, pendant l'accouchement, on est tous... Et puis une fois que c'est fini, on a tout oublié et on est tout content et on a un grand sourire sur les photos. Ben oui, il faut se rappeler d'où l'on vient. Pour que tu sois, parce que Dieu nous donne un avenir et une espérance. Il a un plan pour nous quand il nous appelle. Et puis parfois on rentre dedans et parfois on en sort parce qu'on est humain, on se trompe, voilà. Mais il nous a appelés pour un avenir et une espérance. Alors, là, je dis particulièrement pour les jeunes, parce que souvent, on va essayer de vous faire croire que David était un petit roi de campagne. Oh ouais, la Bible, elle exagère, elle en rajoute. C'est un petit roi de campagne, sans importance. Un petit roi d'une tribu, là, roi telé. Et les textes bibliques ont exagéré. Et pourtant, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu. On est en 2022. Jérusalem est toujours appelée la ville de David. Le drapeau israélien porte l'étoile de David, même si c'est un symbole qui est venu plus tard. Mais il s'appelle quand même l'étoile de David. Et donc, David a eu une existence tout au long de ses 2000 ans. Michel-Ange, sa statue la plus célèbre, de David. Magnifique d'ailleurs. Les peintures, les sculptures, les tapisseries, on a un château pas très loin d'ici, j'arrive plus à me rappeler le lieu, je l'ai visité avec l'école. Il y a toute une série de tapisseries qui sont à peu près grandes comme le fond de l'église, là. C'est toute la vie de David en tapisserie faite à la main, qui date du 13e, 14e. Non, c'est pas Aubusson, c'est un château qui est pas très loin. Bon, je sais que le mari de Chonga y travaillait pendant un temps. Donc ça raconte l'histoire de David. Et quand Dieu dit « Je te ferai un grand nom », ben c'est vrai. C'est vrai, je te ferai un grand nom. Tout l'art en fera aller au Louvre et compter le nombre de représentations qui ont trait à la vie de David. C'est fou. Je te ferai un grand nom. Eh oui, même dans l'art. Même dans un pays plus ou moins athée comme la France. Et Jésus, comment il l'appelait souvent Jésus ? Fils de David. Donc voyez, attention à ce que nous sortent les gens aujourd'hui qui ne veulent pas croire en la parole de Dieu. Dieu a dit « Je te ferai un grand nom ». Eh bien oui, David a un grand nom aujourd'hui. Et il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, c'est Dieu qui élève, vous avez remarqué. Hein. Je t'ai pris derrière les moutons là. Et puis, pour devenir chef de mon peuple, j'ai bien aimé le « mon peuple ». C'est bien, Dieu précise les choses. Hein. Attention, le peuple, il est à moi, il n'est pas à toi. T'as beau être roi dessus, mais il m'appartient à moi. T'es toujours un berger. Le berger, il garde les moutons d'un patron, d'un propriétaire. Et puis, bah, le roi, David, il était chef du peuple, du propriétaire, de Dieu. Ça n'a pas changé finalement, David. Et alors, bien sûr, j'ai été toujours avec toi. Quand on regarde, alors comme disait Philippe Juston la dernière fois, c'est important de regarder en arrière, de voir les bonnes choses.
Seigneur, tu as été avec moi. Et c'est important de regarder derrière pour voir les moments où Dieu nous a tirés d'affaires, pour voir les moments où Dieu nous a pardonnés, pour voir les moments où Dieu est passé sur nos bêtises, nos mauvais choix, etc. J'ai toujours été avec toi. Moi, je ne suis pas sûre que quand David est allé chez les Philistins, je ne suis pas certaine que Dieu était d'accord. Mais bon, il a fait ses expériences. J'ai toujours été avec toi. Dieu ne l'avait pas abandonné, même chez les Philistins. Bon, moi, j'aurais été Dieu, j'aurais dit quand même, t'es culotté d'aller te réfugier chez les ennemis de mon peuple. Bah, franchement, soyons logiques, mais bon. J'ai toujours été avec toi. Et j'ai retranché tes ennemis. Ah, David, faut pas croire que Goliath, c'était toi. Faut pas croire que les victoires sur les Philistins, c'était toi. J'ai toujours été avec toi et j'ai retranché tes ennemis. Oh. C'est important de se rappeler de tout ça. Se dire, si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas grâce à moi. Je n'ai fait qu'obéir quand j'ai bien voulu obéir. Et puis c'est Dieu, en fait, qui agit. Alors, c'est Dieu qui élève celui qui est abaissé. Et ça, on le voit avec David. Alors, il m'est venu aussi une pensée. Parfois, dans nos chants, on chante « Nous t'élevons, Seigneur ». Vous voyez, je n'ai pas le chant en tête, mais je sais qu'il y a un chant où on dit « Nous t'élevons », etc. « Seigneur, nous t'élevons », ouais, quelque chose comme ça. Et je me suis dit « Ah ben là, c'est quoi ? Quel est notre rôle, là ? Comment est-ce qu'on peut élever le Seigneur ? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de lui bâtir une maison, là ?» Et puis, mais non. Quand on dit ça, on proclame une réalité éternelle. Il est élevé. Nous proclamons qu'il est élevé. Et nous ne faisons que renforcer cette idée pour nous-mêmes. Oui, il est élevé au-dessus de tout. Alors, maintenant, Dieu a parlé. Qui est Dieu ? Qui est David ? Ensuite, sa relation, le passé avec David. Et on va arriver... la relation entre Dieu et Israël. On n'est toujours pas avec cette histoire de maison. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu, il ne répond pas toujours directement à ce qu'on lui demande. Vous vous souvenez de Jésus ? C'était enrageant parfois. Les gens posaient une question et ils parlaient d'autre chose. Hein ? Qui est mon prochain ?
Oh, ben il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho.
Parfois André est comme ça aussi.
Bon, relation entre Dieu et Israël.
On y va. Alors, je te ferai un grand nom, ça on a vu, je fixerai un lieu à Israël, c'est le verset 10. Mon peuple, et il reprécise, mon peuple, je ne sais pas le tien, c'est le mien. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Donc là, il se répète. Hein. Mais il répète surtout que Israël est son peuple, qu'il l'a accompagné, qu'il a établi des juges sur lui et qu'il y a une promesse de paix. Une promesse de paix par rapport aux ennemis, une promesse de paix par rapport à l'ensemble du peuple. Et c'est seulement là qu'il va ajouter « Le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. » Ah ! Alors vous voyez, c'est là qu'on comprend mieux le début. Est-ce que c'est toi qui vas me faire une maison ? Et Dieu lui répond, après tout ce dédale, il dit « C'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Parce que je suis Dieu. Et toi, tu n'es qu'un homme. Hein, » c'est ça en fait.
Alors, bon, j'ai insisté en le lisant, vous avez bien compris, je fixerai un lieu, je planterai pour qu'il y demeure, pour qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger. J'ai institué des juges, repensons à Gédéon, Déborah, Samuel. Alors c'est marrant parce que moi j'ai un problème là, j'ai institué des juges, ok pour Gédéon, ok pour Déborah, c'est une femme en plus, alors, hein, franchement. Ok pour Samuel, on a vu sa vie ces dernières années, mais Samson. Là, on fronce le nez, hein. Samson, c'est toi, Seigneur, qui as institué Samson. Mais tu as vu un peu ce qu'il a fait de ton appel. Et puis, Dieu ne revient pas là-dessus. Il ne dit pas, j'ai institué des juges, sauf Samson. Moi, j'ai envie de dire, sauf Samson. Et pourtant,
Dieu lui avait donné tout pour lui obéir. Il lui avait donné tout pour conduire le peuple à la victoire. Mais malheureusement, Samson s'est replié sur lui-même. Il a pensé à lui, sa propre gloire. Il a pris pour lui ce que Dieu lui avait donné. Et vous savez, c'est comme la manne, quand on garde pour soi, ça pourrit. C'est en donnant aux autres que ça prend vie. Et c'est vrai pour tout. Donc voilà, il avait institué Samson, ça a mal tourné, mais c'est l'homme qui a mal tourné, c'est pas Dieu. Et je t'ai accordé le repos. Donc Dieu est souverain, il tient tout en main. Qu'est-ce qu'il rappelle à David là ? C'est moi qui décide, c'est moi qui protège, c'est moi qui délivre, c'est moi qui promets. Et toute l'attention est portée, comme dans la louange ce matin, sur l'action souveraine, toute puissante de Dieu. Et j'avais écrit là, en relisant mon texte, ce qui a été dit ce matin, je ne sais plus qui l'a dit en sa prière, « Nous ne sommes rien sans lui ». Quelqu'un l'a dit ce matin, je me suis rappelé ce que j'avais écrit en bleu là, « Nous ne sommes rien sans lui ». Alors, on arrive au problème de la construction de la maison, ce n'est pas trop tôt, nous les humains on est un peu impatients. Donc au verset 11 et 12, on lit à la fin sur verset 12, « C'est le Seigneur qui fera une maison pour toi ». La boucle est enfin bouclée. Dieu a remis les choses d'abord dans le bon ordre. Dieu est Dieu, c'est lui qui décide. Toi David, t'es un homme, je t'ai choisi, appelé, élevé, délivré. C'est moi qui vais faire une maison pour toi. Alors là, Dieu, eh ben Dieu a de l'humour, imaginez. Ça j'en suis convaincue, Dieu a de l'humour. C'est facile pour moi à comprendre parce que mon père en avait. Donc c'est beaucoup plus facile, je pense, pour moi de comprendre que Dieu, le Père, est un homme qui a de l'humour. Un Dieu qui a de l'humour, pardon. Et il joue sur le mot « maison ». Parce qu'en hébreu, « maison », « dynastie », rien à voir avec le truc qui est passé à la télé, « maison », « dynastie » ou « nom », « famille », etc., c'est les mêmes mots. Alors il dit « c'est moi qui vais te bâtir une maison ». Mais alors là, moi j'aurais été à la place de David, j'aurais fondu sur place, quoi. Oh, mais c'est pas vrai, c'est tout le contraire de ce que je voulais. C'est moi qui commande, c'est moi. Et c'est moi qui vais te bâtir une maison. Parce que toi, me bâtir une maison à moi, franchement, c'est un peu ridicule. C'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il va lui bâtir comme maison ? C'est bizarre, il a déjà son palais. Et voyez, Dieu est toujours sur un autre plan. Qu'est-ce qu'il va lui bâtir comme maison ? Eh bien, c'est pas le palais. Et le pire, c'est ce qu'il dit après. Alors là, c'est choquant. C'est choquant, vous allez voir. Mais bon, à l'époque, c'était important. C'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis, oh ben mince, je ne le verrai pas, et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire tu seras mort, je susciterai après toi, ah ben c'est clair, hein, alors il dit bien mort, 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 hein, de trois façons différentes, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. Ah, donc là il a compris. La maison qu'il va bâtir, ça sera sa succession. Alors, sur deux plans, encore une fois, Dieu joue sur deux plans. Sa succession matérielle, biologique, Salomon, va effectivement être celui qui va bâtir le temple. Mais plus important, c'est la maison de David pour l'éternité. Et là, on n'est pas dans le matériel, on est dans le spirituel, dans l'éternité. Dieu insiste sur le côté éphémère de David. Moi, tu vas mourir. Et puis, il lui dit de trois façons différentes, hein, c'est quand même clair. Quand tes jours seront accomplis, tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi. Bon. C'est-à-dire que il rappelle à David, mais tu es comme la paille. Vous savez les psaumes, c'est lui-même David hein, qui disait ça. Comme la paille qui s'envole, etc. On est éphémère. Et c'est pas les maximum 100 ans qu'on passe sur terre qui changent grand-chose. Dieu, lui, est éternel. Alors, comment est-ce que Dieu va pouvoir susciter un nom à David ? Alors d'abord, le matériel. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Ok. Moi, je serai son père. On avait parlé de ça dimanche. Hein, et lui, il sera mon fils. Ok, pour le roi. Mais là, on commence à dévier un petit peu. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains.
Ah, ce passage n'est pas très drôle, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Chaque fois que les rois d'Israël, descendants de David, se sont éloignés de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ? Ils avaient une guerre. Dieu se servait des païens, Dieu se servait des humains pour les corriger et les ramener à Dieu. Donc là, Dieu est très clair. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et les coups des humains. C'est intéressant. Dieu se sert des coups des humains. Dieu se sert du bâton des hommes. Et on va voir bientôt un texte qui est aussi très problématique où David refuse que ses généraux, enfin ses soldats, tuent Shimei qui lui lance des pierres. Il dit, si c'est Dieu qui l'a décidé, laissez-le faire. Et ces soldats, on peut t'en débarrasser, quoi. Il est là, il te jette des pierres, il te jette de la terre. Ça va durer combien de temps ? Laissez faire. Je pense que David savait quelque chose que nous, on ne sait pas. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Et là, un texte très, très important. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône pour toujours affermi. Alors on va dire, non, mais attendez, on a lu la suite dans les rois et dans les chroniques. Et après Salomon, c'était déjà la débandade. Donc c'est juste un descendant, et puis les petits-enfants, c'était déjà la catastrophe. Ah ! Ton règne, ta maison seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Et là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de Salomon. C'est évident. Parce que déjà, les petits-enfants, c'était la Zoubida. Séparation, Israël du Nord, Israël du Sud, le pays est déchiré, parfois les deux vont se faire la guerre, l'horreur, quoi. Alors, comment est-ce que Dieu pouvait dire ça ? Pour toujours assurer devant toi ? Et ton trône, pour toujours affermi ? Est-ce que Dieu a menti ? Non. En fait, vous savez de qui il parlait ? Du fils de David, de Jésus. Et c'est un texte central, alors là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les théologiens, c'est un texte central sur la venue de Jésus. Jésus, fils de David. Alors vous savez, à cette époque-là, on disait fils pour les petits-fils, pour les arrière-petits-fils, c'était une notion de descendance, ce n'était pas le fils biologique, première génération. Et là, pour Dieu, c'était clair. Le trône sera affermi pour toujours. Oui, parce qu'il va choisir dans la lignée de David, Marie et Joseph, pour donner naissance à Jésus. Jésus, fils de David. Et là, Dieu s'affirme, moi j'aime bien. Il dit, écoute, toi tu vas mourir, hein, en gros. Tu ne pourras plus rien faire, tu seras mort, mais c'est moi qui susciterai ta descendance. Moi, j'affermirai ton règne. Et à cette époque, c'était très important. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins préoccupé par ce que feront nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Alors, on a tendance à dire, après moi, le déluge. Et je trouve, depuis l'an 2000, même un petit peu avant, depuis 68, finalement, ce qui se passe après nous, voilà. Alors qu'à l'époque, c'était capital. Que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière sur X générations suivent le Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur disait très bien qu'il bénirait sur 1000 générations. Vous voyez, l'idée d'une continuité, c'est central dans la parole de Dieu. Donc pour David, c'était important de savoir. Et là encore, regardez comment Dieu procède. J'affermirai, c'est moi, hein, son trône royal. Je serai son père, il sera mon fils. Jésus, fils de Dieu. Ah, franchement, c'est transparent. Je le châtierai, ça il s'agit de Salomon. Ma fidélité ne lui sera pas retirée. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, pour toujours affermis. Jésus, fils de David, a parfaitement accompli les promesses de Dieu dans ce domaine. Et David, c'est curieux, mais j'ai l'impression qu'il a compris ce que Dieu voulait lui dire. Je crois qu'il a compris. Et l'idée, c'était, toi, tu veux me construire une maison. Tu veux quelque part me limiter à une maison. Moi, j'avais choisi une tente pour t'accompagner. J'ai rien demandé. Je suis Dieu. C'est fort, hein ? C'est moi qui, et puis on a je ferai, etc. Et puis, son dessein plus large, mon peuple. Et il revient à David, c'est marrant la façon dont Dieu procède. Hein ? Il revient à David en disant, je ferai une maison pour toi. Mais quand tu seras mort, Mais il y a bien sûr Salomon qui va bâtir le temple, mais il y a Jésus qui lui sera éternel, qui lui sera juste, je serai son père, il sera mon fils, etc. Donc ce texte, il est sur les deux niveaux. Et on va juste terminer par la réponse de David, qui prouve qu'il a très bien compris de quoi il s'agit. C'est au verset 18. Le roi David alla se présenter devant le Seigneur. Donc après ce que Nathan lui a dit, apparemment, il n'a pas fait de commentaire, et il est parti rencontrer le Seigneur. Et il lui a dit, mais qui suis-je ? Et il est bien là le problème. Qui suis-je, Seigneur Dieu ? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? Il a tout compris. Il a bien retenu, hein, dans l'ordre. Qui suis-je ? C'était le premier point. Qui suis-je ? Qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? Il a tout compris, il ne s'est pas fâché. Alors je ne sais pas, ça aurait pu être vexant, hein, mais il connaissait Dieu. Il était soumis à Dieu quand même, hein. Et qui suis-je ? Et finalement, il se dit, mais c'est super ce que tu me proposes. Moi, je te proposais de te construire une maison pour toi, et toi, tu m'établis une dynastie pour l'éternité. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Dieu. Tu parles aussi en faveur de ma maison pour des temps lointains. Ah, il saisissait qu'il y avait quelque chose de prophétique, hein ? Telle est la loi de l'être humain, Seigneur Dieu. Que pourrais-je encore te dire ? Là, il ne s'agit plus de faire. Que pourrais-je encore te dire de plus, moi, David ? Tu m'as distingué, toi, Seigneur Dieu, à cause de ta parole, non plus, vous avez vu, pas à cause de moi, hein, à cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour me les faire connaître. Voyez là, tout est recentré sur Dieu. Je veux construire une maison pour toi. Et là, on termine, à cause de ta parole, selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour me les faire connaître. Et moi, bah, je suis juste là pour les connaître. Que tu es grand, on l'a chanté ce matin, c'était bien le thème. Tu es grand, que tu es grand, Seigneur Dieu, nul n'est semblable à toi, le tout autre. Il n'y a pas de Dieu à part toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Et je crois que c'est ce qu'on peut dire aussi ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et je crois que pour nous, bien vivre notre vie, c'est bien se rappeler qui nous sommes, nos limites, nos erreurs, nos fautes, qui font appel à la grâce de Dieu. Et qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'il nous demande et qu'est-ce qu'il ne nous demande pas ? Comment Dieu nous a choisis, appelés, pardonnés, établis là où nous en sommes, ce qu'il a fait pour nous, sa protection, ses promesses, son accompagnement, sa proximité. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des commerces de proximité. Et je me souviens, le responsable de l'œcuménisme à l'évêché de Versailles, avait prêché un jour sur le supermarché des religions, où on prend ce qui nous plaît, à droite, à gauche. Et j'espère qu'il y aura un retour vers le commerce de proximité. Et sympa, les supermarchés, mais Dieu, il veut une proximité. Un Dieu de proximité, pas un Dieu de supermarché. Un Dieu de proximité. Donc sa protection, ses promesses, ce que Dieu a fait dans notre... C'est important de se rappeler ce que Dieu a fait dans notre sphère d'influence, famille, amis, travail, relations diverses, église, dans l'église, et même Israël. Il faut se rappeler, on l'a fait souvent dans l'église, se rappeler ce qu'il a fait pour son peuple d'Israël. C'est important. Se rappeler que l'éternité, ça sera avec Dieu. Et c'est beaucoup plus important que le matériel d'aujourd'hui. Hein, quand nous serons couchés avec nos pères, quand nous serons morts, en quelque sorte, voilà, Dieu continuera son action. Dieu restera souverain. Nous ne sommes rien. Un souffle qui passe, dit le psaume. Et quand on ne pourra plus rien, bah c'est lui qui continuera à s'occuper de nos familles, de nos descendants, de tout ce qu'on a fait, etc. C'est lui. Voilà, je pense que c'est important de se rappeler de ça. Ça change notre point de vue sur la vie. Ça change notre tristesse en joie parce qu'on sait qu'on a un Dieu proche. Et souvent, vous savez, je trouve que le diable s'emploie à nous faire croire que Dieu se désintéresse de nous. On est des gros vilains, on a fait des tas de bêtises et il n'en a rien à faire de nous parce que vraiment, il en a marre de nous. Et ça, c'est un mensonge énorme. Même quand on s'est trompé, même quand on a mal agi, il est là. Il est proche de nous. Ça ne veut pas dire qu'il nous donne raison.
Ça ne veut pas dire qu'il nous donne raison. Vous vous rappelez, là, la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, il a dit « Va !» et ne pêche plus. Il ne donne pas raison à nos bêtises. Mais il est là, il est proche. Et je crois qu'il ne faut pas perdre, dans cette saison où on vit, il ne faut pas perdre de vue qui est Dieu et qui je suis. Pas pour déprimer en se disant « Oh, je ne vaux rien !» mais pour se dire « Waouh, malgré le peu que je suis, il est proche. Il nous aime, il nous suit. » Et je pense, peut-être pour vous les plus jeunes, c'est important de jamais oublier ça, parce que le monde va passer son temps à vous faire croire que Dieu n'existe pas, qu'il se désintéresse. Et si jamais il existe, il n'en a rien à faire des humains, etc. La preuve, il y a une pandémie. La preuve, il y a des injustices. La preuve, voilà. Donc, rappelez-vous, la Bible dit la vérité. Et quand elle dit à David, je te ferai un grand nom, on relit ça 3000 ans après, eh bien oui, le nom de David est un grand nom. Dieu respecte ses promesses. C'est aussi vrai qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, quand vous êtes un peu déprimés, les jeunes, alors en plus, c'est déprimant d'être jeune, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas encore faire. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Les parents, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais alors nous, 13, 14, 15, 16 ans, c'est pénible, hein? Mais ça va venir, ça va venir. Préparez-vous à bien faire, justement. Et puis, le Seigneur est avec vous. Voilà, amen.